C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60
elle
minutes.
Elle est la nouvelle chef de l'opposition. En fait, elle est officiellement chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Ce n'était pas gagné pour elle. J'accueille la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Belle soirée.
Mais bonne soirée avec les résultats qu'on a connus, beaucoup de nouvelles têtes aussi qui arrivent dans notre formation politique, de nouveaux députés que peu de personnes connaissent mais qui vont découvrir à l'Assemblée nationale. Donc bien hâte à notre premier caucus qui va se tenir déjà demain.
OK, on va écouter un extrait de votre discours hier quand vous êtes monté sur la tribune.
Les Québécois demandent au Parti libéral du Québec, nous demandent d'être l'opposition officielle à Québec.
Il n'y a pas une erreur factuelle dans votre déclaration parce que 75% de vos députés sont à Montréal. Le PLQ est désormais un parti montréalais de région de Montréal. C'est pas les Québécois qui vous envoient là-bas. Là.
Ah ben alors je vais reprendre votre prémisse quand même. Quand je vois qu'en Outaouais on a André Fortin, quand je vois qu'en Laval on a une Virginie Dufour avec une Sonelle Akoyan, quand je vois que on est en Montérégie avec Marie-Claude Nicoz, avec Linda Caron, je regarde les autres partis d'opposition, on est le parti qui représente le plus les régions aujourd'hui là dans l'opposition.
Et 75% alors, des députés sont de Montréal.
Ce sont des Montréalais qui ont voté pour nous, puis il y a des Québécois qui ont voté pour nous à travers l'ensemble.
Et les Montréalais sont des Québécois, on se comprend. Non. Mais quand même, écoutez, vous avez déjà, ce parti-là a déjà été, déjà eu des assises partout dans la province.
Bien, écoutez, le message qui a été envoyé hier, c'est qu'on est l'opposition officielle. Oui. On est cette opposition officielle-là. Et chaque fois qu'on revient sur les prémices de base, moi, je m'excuse, là, je vais m'inscrire en faux par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui ont voté par nous sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a du travail à faire de renouvellement? Mm-hmm. Absolument, il y en a du travail à faire. Mais je veux pas discarter le fait que, oui, on a des élus en Outaouais, en Montérégie, à Laval, à Montréal.
Vous êtes rendu le parti des circonscriptions principalement anglophones. Là. On va pas se compter des histoires. Là.
Alors, si vous regardez Mille-Îles, si vous regardez Vaudreuil, je veux dire, il y a des circonscriptions...
Madame Anglade, je m'excuse de vous interrompre, là, mais je dis pas qu'il n'y a pas de francophones dans ces circonscriptions-là. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire.
On est tous Québécois. Puis la manière de regarder la chose, c'est qu'on a un système qui fait en sorte qu'il y a une opposition officielle. Alors ouais. Oui, je suis contente parce que ce que les pronostics nous disaient, c'est que on va voir qui va aller chercher l'opposition officielle. On a l'opposition officielle et on va jouer notre rôle.
Vous dites que vous êtes contente. Votre parti, si on compare à 2018, a perdu 400 000 voix et 10 députés. Pourquoi vous êtes contente?
Parce que c'est tout un renouvellement qu'on a besoin de faire au sein du Parti libéral. Un renouveau qu'on a besoin d'opérer.
On renouvelle en perdant des voix et des députés?
Non, mais on fait un travail de renouveau à l'intérieur de deux dernières années. Puis il faut dire les choses comme elles sont. Les deux dernières années n'ont pas été faciles. On a des gens qui sont partis. Les gens se disaient, mais c'est qui vos candidats? Moi, je suis contente d'une chose, je vais vous dire, qu'on va découvrir les Frédéric Beauchemin de ce monde. On va découvrir les Michel Sette-Lacoué de ce monde. On va découvrir les Virginie Dufour de ce monde. Des députés qui ont énormément à contribuer au sein de l'Assemblée nationale, puis qui vont se dire, c'est quoi l'image du nouveau Parti libéral du Québec? Ben ça va être ça.
C'est quoi l'image du nouveau Parti libéral du Québec?
Ben justement, ça va être l'ensemble de ces députés-là, puis notre ouverture par rapport au monde, l'inclusion, toute la question par rapport à l'économie dont on a parlé pendant la campagne électorale, dont on va continuer de parler pendant la prochaine.
En quoi votre nouveau caucus, c'est maintenant votre caucus, là, parce que vous avez été élu avec, en quoi il est différent du dernier caucus?
Ben, le dernier caucus, c'était il y avait des gens qui avaient fait de la politique depuis longtemps, qui étaient là depuis des années, qui amenaient une expérience et une expertise qui était importante. Mais en même temps, lorsque je suis devenue chef du Parti libéral du Québec, on a dit il faut renouveler, il faut aller chercher du nouveau monde. Et ce travail de renouvellement, il était important. Aller chercher des têtes d'affiche qui voulaient venir, qui voulaient s'impliquer, qui voulaient s'engager. Avoir du monde là, qui a jamais été libéral puis qui décide de venir puis de sauter dans l'aventure, comme des gens qui l'avaient été par le passé puis qui disent et moi j'ai envie d'embarquer là-dedans. Il reste un travail de reconstruction à faire. Il y a personne qui va se compter des histoires par rapport à ça, mais c'est ça qu'on entame présentement.
OK, justement, parlons de reconstruction. Comment le Parti libéral du Québec, Mme Anglade, va recoller les liens avec les Québécois francophones au sens large?
Présence sur le terrain, nouvelle équipe qui va être présente, les idées qu'on va mettre de l'avant, puis jouer notre rôle d'opposition officielle également par rapport au gouvernement.
Mais vous l'étiez déjà.
Oui, mais sous la COVID. On l'a été sous la COVID. Ouais. On l'a été dans un contexte qui était différent.
Vous trouvez pas que les liens se sont cassés avec les Québécois francophones?
Moi, je refuse la prémisse des liens qui sont cassés.
Ah, ouais.
Oui, moi, je la refuse, cette prémisse-là. Parce que les racines du Parti libéral, là, elles sont là depuis, ouais. Elles sont là depuis longtemps. Puis il y a un travail de fond qui est à faire. Alors, tu sais, parfois on regarde des partis puis on dit, oh mon Dieu, ben où est-ce qu'ils étaient rendus à ce moment-là? Puis comment ça se fait qu'ils sont rendus là maintenant? C'est toute cette transformation-là qu'on est en train d'opérer.
OK. Trouvez-vous que le système de scrutin actuel est injuste?
Bon, il est pas parfait, hein, on va dire ça comme ça. Puis il crée des distorsions,
on s'entend.
C'est clair.
Trouvez-vous qu'il est injuste?
Ben parce qu'il représente mal la partie proportionnelle. Puis c'est pour ça que pendant la campagne électorale, moi, j'ai exprimé une ouverture par rapport à ça. Je comprends que François Legault a déjà fermé la porte.
Mais en fait, vous avez fermé la porte à un moment donné dans la campagne. Là, il y a eu une demande par lettre, puis votre parti a répondu que non, vous étiez contre
ça.
Dans
la campagne?
Puis après, ou avant la campagne, non, pardon. Ben, ouais. Et pendant la campagne, là, vous avez entrouvert la porte. Écoutez... Vous n'avez pas envie de changer un système qui vous avantage. Là.
Non, mais attention, j'avais montré une ouverture par rapport à ça. Et non seulement ça, ce que j'ai dit, c'est que le jour où ça va être inscrit dans notre plateforme électorale, ce qui n'était pas le cas, j'ai dit le jour où ce sera inscrit, nous, c'est pour le passer à l'action par rapport à cette mesure-là. C'est ça qu'on veut faire. Alors, j'avais émis une ouverture, puis là, c'est François Legault qui ferme la porte, c'est lui qui doit la réouvrir, mais nous, on est ouvert.
Mais allez-vous être de tous les combats là-dessus? Allez-vous vous lever en chambre pour en parler constamment de la réforme du scrutin?
Ben moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir cette ouverture-là, puis cette discussion-là.
Mais si le premier geste... Votre temps de chambre pour en parler.
Certainement, je peux utiliser mon temps de chambre pour en parler. La question maintenant, ça va être de savoir, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de collaboration là-dessus?
Okay. François Legault vous a appelé hier?
M'a appelé hier.
Ben, il a dit sur la tribune qu'il
a parlé
à Dominique, il a parlé à...
Je l'ai appelé pour le...
Comment ça se passe, un appel comme ça?
Ben, j'ai parlé avec tous les chefs des formations politiques hier. Tu les appelles, tu les félicites pour...
Okay.
Pour
mais qui pour appelle qui, disons, dans le cas de M. Legault? C'est lui qui vous appelle?
Ben, là, j'ai appelé. C'est moi qui ai appelé. Okay. À partir du moment où la personne est élue, tu veux la rejoindre le plus rapidement
comment
possible.
Comment se passe... Racontez aux gens qui nous écoutent comment se passe la conversation.
Ben, t'appelles, puis tu dis, ben écoute, François, félicitations pour ta victoire, puis belle campagne, puis c'est cordial avec les chefs, et puis...
Vous n'avez pas dit belle campagne, pour vrai?
Non, lui... Mais je lui ai dit, ben, félicitations pour ta victoire. Et puis, avec rire en coin. Alors, on peut ne pas être d'accord, puis pas trouver qu'il a fait une super campagne électorale, mais il faut reconnaître les résultats après, là, puis avoir l'humilité de reconnaître ces résultats-là aussi.
OK. Puis, PM hier, il était rassembleur quand il a gagné. Il était... Non, mais écoutez, son ton était, disons, pas mal moins bougonneux que pendant la campagne. Pensez-vous qu'il peut rester comme ça?
Ben déjà, même pour le scrutin, là, déjà, il a fermé la porte. Alors, je sais pas le degré de collaboration qu'on va avoir. On va voir. Mais j'ai dit depuis le départ, nous, on veut rassembler tout le monde, partout, puis on veut collaborer. C'est pas ce qui a été démontré dans les 4 dernières années. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines.
OK. Là, ben il y a la question d'une réforme possible, peut-être, hypothétique du système de scrutin. Parfait, ça, c'est une chose. Là, vous êtes l'opposition officielle.
Oui.
Et il va y avoir des discussions, même des tractations à l'Assemblée nationale pour donner peut-être plus d'espace aux oppositions qui ont été désavantagées par le système. Comment vous voyez ça?
Ben ça va être des négociations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Comme toujours, là, au début de l'Assemblée nationale, là, quand on ouvre les travaux, il va y avoir des discussions, des négociations.
À quoi vous êtes ouverte?
Moi, je vais attendre les négociations. Honnêtement, pour me prononcer là-dessus, je vais vraiment attendre les négociations.
D'avoir une petite idée.
Non, mais je veux voir le degré. Moi, je veux voir le degré d'ouverture du gouvernement, les demandes qui seront faites, là, mais on va attendre les négociations. J'en ferai pas en avance, là, puis je n'émettrai pas de commentaires en avance. Là, on va voir comment ça va se passer.
Vous êtes en position de force parce que vous êtes l'opposition officielle. Vous n'avez pas à partager votre temps de parole si vous ne voulez pas, puis les budgets, etc. Je veux dire, tout ce que les oppositions n'auront pas, ben c'est un morceau du steak libéral qu'ils ne vont pas gruger.
Ben on aura, comme je vous dis, on aura les négociations qu'on aura à voir, puis je ne les ferai pas avant, puis je ne les ferai pas sur la place publique. Ben, je ne les ferai pas sur la place publique. Puis chaque session parlementaire, c'est la même affaire. C'est la même affaire qui s'est produite la dernière fois également. Donc, on va attendre de voir quelles sont les demandes.
Très bien. Mais merci d'être venu nous voir en studio.
Merci à vous.
Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle, chef du Parti libéral et député aussi de Saint-Henri-Sainte-Anne.
Patrick Lagacé en accéléré.
Je le tourne maintenant vers quelqu'un que vous connaissez bien, qui a été maire de Québec, qui est maintenant analyste tout-terrain, lance son opinion tel un franc-tireur dans la sphère publique. Je parle bien sûr de Régis Labombe. Salut Régis!
Salut Patrick!
Régis, on savait que les caquistes allaient gagner. Pensais-tu qu'ils allaient gagner à ce point-là?
Ben écoute, les sondages, ça arrive avec les sondages quand on y pense, et ils ont eu moins de 4% de plus que la dernière élection, mais évidemment, l'éparpillement des votes de l'opposition a donné ce que ça a donné. Il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'ils sont à peu près à un peu moins de 41, mais que veux-tu, c'est étoilé comme opposition et ça a donné ce que ça a donné.
Quand on regarde là, ce qui s'est passé à Québec, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que le Parti conservateur du Québec fasse, disons, des gains, aille chercher des sièges. Est-ce que c'est étonnant pour toi de voir qu'ils en ont eu zéro?
Oui, c'est étonnant, mais encore une fois, on s'est fait prendre par le bruit. Monsieur Duhem a débuté très fort, il était l'objet d'une très grande curiosité des médias, et c'est normal. Mais il a vraiment plafonné. J'ai l'impression que ça ressemble pas mal au moment où on a découvert qu'il payait pas ses factures. Et le vote, c'est... Écoute, le résultat dans Chauveau, c'est remarquable. Là. C'est au-delà de 5000 voix de majorité pour la CAQ. Il était même pas dans la bataille. Bon, il y a une demande de recomptage en Beauce, là, mais à 200 voix de différence, les recomptages, ça donne rien. Même à 50 voix, c'est compliqué. Alors, ici, on n'a pas bougé, finalement. Peut-être remarquer la belle victoire. Là où ça a changé beaucoup en termes de pourcentage de vote, c'est Sol Zanetti avec Québec solitaire dans Limoilou. Tu vois, les sondages, les données égaux, puis il y a eu une victoire éclatante. Mais bon, il y a eu beaucoup de bruit, ces conservateurs, puis finalement, ça n'a pas accouché grand-chose.
Régis, t'as parlé de Québec solitaire avec un T. C'est-tu un lapsus?
Bon, c'est comme le Journal du Québec, pas le Journal de Québec. ils sont quand même deux. Ils sont quand même deux.
Oui, c'est vrai. Qui a le plus mal à la tête ce matin? Qui avait le plus mal à la tête ce matin, tu penses, dans les oppositions?
Ben, moi, je pense que c'est Mme Anglade. Il y a M. Plamondon qui devrait avoir mal à la tête, mais visiblement, il ne l'a pas compris, celle-là. Là. Il a vu ça comme une grosse victoire. D'ailleurs, j'ai lu ta chronique, Patrick, c'est exactement ça. Hier, je regardais ça, j'écoutais ça. Tout le monde était victorieux. Mais écoute, les libéraux et les péquistes ont mangé une maudite volée, là. C'est pas ordinaire. Pire, tu sais, le PQ, le pire de son histoire, trois petits députés. Mme Anglade, là, elle a été très courageuse, comme je disais hier, à conduire un véhicule qui perd de l'huile depuis longtemps, là. Mais c'est pas simple, là. Quand tu regardes le pourcentage, c'est horrible pour les libéraux. Horrible.
C'est OK. Et je veux t'entendre sur le fait que Montréal a pas de... Écoute, on est coupé du reste du Québec. On a voté très libéral, quelques circonscriptions qui forment la base de Québec solidaire. T'as jamais été un maire, t'as jamais été un politicien qui cassait du sucre sur le dos de Montréal. Ça t'inspire quoi de voir ça?
Ben, ça m'inspire que... Quand une métropole vote pas pour son premier ministre ou le dirigeant de son pays ou de sa province, c'est inquiétant. On savait que Montréal c'est déjà une île, là, mais là, c'est devenu une île politique en soi, c'est à part. On sentait venir, mais hier, on n'a pas de preuves plus manifestes que deux Québec. Il y a Montréal, il y a le reste du Québec. Le problème, c'est que Montréal, avec le pourtour de Montréal, c'est la moitié de l'économie du Québec, là. Et quand tu vois l'île de Montréal, c'est quoi? C'est 25 à 30 % du PIB du Québec. Et ils ont voté quasiment totalement contre le gouvernement qui a été élu. C'est très préoccupant. C'est très préoccupant. Et quand je pense au gros dossier de Montréal, quand je pense au dossier du transport collectif, m'a dire une chose, ils n'auront pas beaucoup de défendeurs, là. Tu sais, parce qu'oublie pas que le député de Roberval, là, le transport collectif à Montréal, il s'en balance. Ça vaut aussi pour le député de Gaspé. Et c'est pas évident d'un caucus. Et je trouve que c'est une mauvaise nouvelle pour Montréal. Je suis peut-être un peu fataliste, là, mais ça me semble pas normal.
Écoute, parlant de transport, je sais que tu es un sceptique face au troisième lien. Je t'ai déjà entendu dire que ça se fera jamais. Avec 90 députés, penses-tu que ça change de quoi, disons, sur la position de la CAQ?
Ben, je pense que ça ne change pas le coût du troisième lien, qui va être aux alentours de 10 milliards facilement. Alors, peu importe la victoire de la CAQ hier, là, il y a la faisabilité, il y a le coût, puis il y a surtout la justification. On n'a pas vu d'études d'achalandage. Alors, s'ils ne sont pas capables, après 4 ans, de faire la démonstration qu'il y aurait un achalandage qui justifierait un troisième lien, Ils n'ont pas été capables de le faire pendant 4 ans, puis même pas pendant la campagne électorale. Ça ne change absolument aucun de mes arguments, où je pense que ça se fera jamais. Mais évidemment, ça va brasser dans la région parce qu'ils l'ont tellement promis. Mais évidemment, moi, je pense que le premier ministre ne reviendra pas pour un autre mandat. Alors, il va laisser le paquet au suivant. Tu sais.
Et parle-moi du tramway. Le tramway, tu t'es battu pour ça, pour que Québec ait quelque chose de structurant en matière de transport collectif. On sent que la CAQ ne trippe pas là-dessus, même s'ils ont avalisé le projet. Est-ce que le résultat d'hier change quoi que ce soit?
Ben, écoute, ils sont forts, très forts, et ils ne veulent pas du tramway. Ces gens-là ne veulent pas et n'aiment pas le tramway. Ça prendrait pas grand-chose. Ça prendra pas de grandes difficultés au projet pour qu'il recule ou qu'il le retarde. Moi, je vais dire, là, le caucus de la CAQ ici, qui a pas changé, d'ailleurs, là, à part les gens de la Rive-Sud, ça arrive nord, il y a rien de changé. Ces gens-là n'en veulent pas du tramway. Ils ne comprennent pas cette affaire-là. Ils veulent un troisième lien, puis on promet à Levon un troisième lien. Alors, moi, je te dirais que le projet de tramway demeure fragilisé. Je vais le dire comme ça.
OK. Je veux t'entendre aussi sur les oppositions sont fragmentées. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben, savez-vous quoi, la nouvelle opposition, de toute façon, ce sont les maires des grandes villes, les Bruno Marchand, par exemple, Valérie Plante, il y en a d'autres là, qui montent à Sherbrooke, à Laval, à Longueuil. Penses-tu que dans le réel, ça se peut, ça, ou c'est une vue de l'esprit?
Non, c'est une vue de l'esprit. Moi, je l'ai vécu personnellement. Tu sais, je connais les vins. Ben là, j'en connais moins parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, là, mais tu sais, la CAQ a été très arrogante avec les élus municipaux, puis je vois pas pourquoi elle serait moins arrogante à partir de ce matin. Hein? Alors, ils se préoccupent pas beaucoup. Je l'ai dit hier de façon un peu fâchée, là, mais dans la réalité, ils s'en tapent pas mal des maires. Ils s'en tapent pas mal. Et surtout avec la victoire hier, m'a dit une affaire, ils sont réconfortés dans leurs sentiments. Alors, faut pas penser que l'opposition va venir des maires du Québec. Oublie jamais que tous les emprunts des villes du Québec sont contresignés et garantis par le ministère des Finances. Hein? Oublie jamais que tout ce qui est voté dans les conseils municipaux au point de vue financier, c'est faut que ce soit avalisé par le gouvernement du Québec. Alors, les villes, ce sont des créatures de l'État, et ça fait que le rapport de force est toujours à l'avantage du gouvernement.
Merci, Régis. C'est toujours un plaisir de te parler.
Ça marche.
À la prochaine.
Bye.
Régis Labombe, ancien maire de Québec, on peut le lire dans la presse, on peut l'entendre un peu partout. Je l'ai dit, il s'est transformé en analyste, en chroniqueur. Puis moi, je trouve qu'il le fait très bien, d'ailleurs, avec beaucoup de couleurs.
C'est jouissif de l'entendre.
Ouais. Moi, je suis pas toujours d'accord avec, mais les gens pas de cassette comme ça, un peu à la Luc Ferrandez, j'adore. Écoute,
non, vraiment, à un moment donné, j'y ai parlé hors d'onde, puis il dit, ben, tu sais, je suis à retraite, mais je me trouve pas mal occupé pour...
Je comprends.
Donc, avec 41% des voix, François Legault a 72% des sièges. C'est pas la première fois qu'il y a des distorsions. C'est comme ça qu'on appelle ça, une distorsion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une adéquation qui a du bon sens entre le pourcentage de votes récolté par un parti et le pourcentage des sièges que ce même parti va occuper à l'Assemblée nationale. Ça fait beaucoup jaser aujourd'hui. Par exemple, le Parti conservateur d'Éric Duhaime à 13% des voix n'a aucun siège. Le Parti libéral à 14,3% des voix a 21 sièges et va être l'opposition officielle. On va écouter le premier ministre Legault, là, parce qu'il y a beaucoup d'appels de gens à réformer le système de vote.
Il n'y a aucun mode de scrutin qui est parfait. Il y a des avantages, des désavantages dans chacun des modes de scrutin. Puis j'ai été très clair pendant la campagne électorale, là. Je me suis engagé à ne pas rouvrir le débat sur le mode de scrutin, donc je vais respecter mon engagement.
Notre système, c'est le système uninominal majoritaire à un tour. Et il peut être cruel, il est cruel notamment pour le Parti québécois. Écoutez, le PQ a sensiblement le même pourcentage de voix que le Parti libéral. Ben pourtant, il a 18 sièges de moins. Il a 3 sièges. On va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon.
On termine avec plus de votes au suffrage universel que l'opposition officielle qui a 23 députés. Et donc, ça m'amène inévitablement à vous parler du mode de scrutin. La disproportion entre le vote populaire et le nombre de sièges est historique et elle est très problématique pour la démocratie au Québec.
Écoutez, ce système-là, c'est un système qui est hérité des Britanniques. On l'a depuis à peu près toujours. Il n'y a pas de système parfait. Je pense qu'il faut le dire. Pas de système électoral parfait en démocratie. Dans plusieurs pays du monde, il y a les mêmes critiques, les mêmes griefs. Aux États-Unis, les distorsions sont dans le collège électoral. On peut remporter une pluralité d'États. On peut remporter une majorité claire du vote populaire et perdre le collège électoral et pas gagner la présidence. Et là, je vois beaucoup de gens qui disent que le système québécois et canadien aussi, c'est la même chose au niveau canadien, est injuste. Puis c'est vrai, il y a quelque chose d'injuste parce que je reviens à ce fait-là. M. Legault, avec 40% des voix, a une super majorité de 90 sièges. Et là, je veux faire un détour par Israël parce que Israël a un système de proportionnel pur. Si un parti en Israël dépasse le seuil des 3,25% des voix, ben ce parti-là va avoir une représentation au Parlement, à la Knesset, proportionnelle à son nombre de votes. T'as 15% des voix en Israël, ça te donne 15% des sièges. Et par contre, des systèmes semblables, ça donne forcément des gouvernements de coalition. Ça donne des alliances qui gouvernent, puis souvent, faut le dire, là, de façon chambranlante. Imaginez, depuis 2019, Israël a eu 4 élections. Puis il y en a une autre qui s'en vient le 1er novembre. 5 élections en 3 ans. Quand on parle de proportionnel, là, quand je vois des projections qui prennent depuis hier des pourcentages de vote et qui attribuent par effet miroir des pourcentages de sièges, je me dis, ça peut, si on avait un système semblable, ce serait un système à l'israélienne, un système qui est toujours en élection ou presque, donc tu es toujours en campagne électorale. Si vous êtes tanné des pancartes, il y aurait des pancartes pas mal tout le temps. On n'aurait pas le temps d'enlever les vieilles pancartes que les nouvelles apparaîtraient. L'autre affaire sur le système québécois, dans ces exercices de politique fiction, là où on prend le pourcentage des votes et on traduit ça en pourcentage de sièges dans notre Assemblée nationale à 125 sièges, c'est un calcul qui tient pas la route pour deux raisons. Un, les citoyens voteraient pas de la même façon dans un système de proportionnel pur et ils voteraient probablement pas de la même façon non plus dans un système de proportionnel là, modifié. Et deux, il y aurait d'autres partis dans un système semblable, dans un système de proportionnel. Il y aurait plein de petits partis qui se lanceraient dans la sphère publique justement parce que la barre pour se faire élire, pour faire élire des députés, elle serait soudainement très, très basse. Si vous trouvez que Québec solidaire est trop à gauche pour votre goût, mais attachez vos trucs parce que dans un système de proportionnel, il y aurait des partis encore plus à gauche. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je vous dis qu'il y aurait soudainement beaucoup plus de joueurs dans la patinoire politique. Vous trouvez qu'Éric Duhaime est trop à droite? Ben c'est sûr qu'un système proportionnel créerait des partis plus à droite. En Israël, par exemple, l'actuel gouvernement, comme d'habitude, comme presque tout le temps en Israël, c'est un gouvernement de coalition. Devinez, il y a combien de partis dans la coalition? Il n'y a pas deux partis, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il y a 8 partis dans la coalition présentement. Ça fait toutes sortes de tractations à l'intérieur des gouvernements, toutes sortes de négociations, des compromis. Certains diraient aussi des compromissions. Et ça crée, par définition, des gouvernements qui sont pas stable. Il y a peu de gouvernements en Israël, par exemple, qui se rendent jusqu'au bout du terme de 4 ans. Et là, je suis pas en train de dire que la proportionnelle, c'est pas une bonne idée. Je suis pas en train de dire que notre système uninominal majoritaire à un tour, c'est une bonne idée. Je dis qu'il n'y a pas de système de scrutin dans une démocratie qui est parfait. Je vais vous donner un exemple. En 1976, René Lévesque a été élu avec une majorité hyper confortable, 45 sièges de plus que les libéraux de Robert Bourassa. Le gouvernement de Lévesque, à l'époque, ça a été un gouvernement salué pour sa compétence. Les historiens disent que c'était un des gouverneurs les plus compétents dans l'histoire du Québec, qui a lancé des réformes très importantes, réforme du territoire agricole, réforme du financement politique, réforme de l'assurance automobile. C'était un Far West à l'époque, tout ce qui régissait l'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Et aussi, bien sûr, la réforme qui incarne toutes les réformes du gouvernement Lévesque, ben tout ce qui a touché à la sauvegarde du français, la loi phare, la loi 101. C'est pas passé comme une lettre à la poste, la loi 101, je veux le rappeler. Franciser les enfants d'immigrants par l'école obligatoire en français. Franciser la langue d'affichage. Forcer le français comme langue du travail, c'était quasiment révolutionnaire. Sans oublier qu'avec cette loi-là, mais le Québec devenait officiellement unilingue français. Le français devenait la langue officielle au Québec. Il y a eu des débats, il y a eu des grincements de dents, ça a brassé ça a été socialement très difficile, ce débat-là. Ça a brassé aussi dans le Parti québécois. René Lévesque, dit-on, trouvait que ça allait peut-être un petit peu trop loin, le projet de son ministre Camille Lorrain. Le PQ a fait adopter la Charte de la loi de la langue française en 1977 et c'est encore cité comme une loi importante. Et je vous ai dit que le PQ de 76 avait une super majorité, 71 sièges sur 110. C'est peut-être pas une super majorité comme celle de M. Legault aujourd'hui, mais c'est une majorité très confortable. Mais le PQ de 76 avait juste 41% des voix au suffrage populaire. Le PLQ, 21. L'Union nationale, 18%. Les créditistes, 4,6%. Si le Parti québécois de René Lévesque avait eu à adopter la loi 101 dans un système proportionnel, c'est loin d'être évident que la loi 101 aurait pu être adoptée, parce que tous les autres partis étaient contre. Donc, on peut se dire, sans se tromper, que vu que c'était hyper controversé, la loi 101, ça, c'est juste un exemple que je vous donne, avec un gouvernement de proportionnel, de coalition, cette loi-là n'aurait probablement pas été adoptée. Au Québec, comme partout au Canada, il y a plein de lois comme ça, des lois controversées, qui ont été adoptées dans des conditions d'adversité pour une seule raison. Parce que le gouvernement était majoritaire à la législature. Donc, j'insiste, notre système actuel, celui qui permet à François Legault de gouverner en super majoritaire avec seulement 41% des voix, il est injuste. Mais la contrepartie de cette injustice-là pour les autres partis, c'est que ça produit des gouvernements stables qui peuvent parfois adopter des lois controversées, mais parfois nécessaires.
Patrick Lagacé en accéléré.
Sébastien Lemire est député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois. Il est l'instigateur de la motion qui a obligé Hockey Canada à témoigner devant un comité de la Chambre des communes. On le sait, il y a des scandales qui ont frappé Hockey Canada, des scandales quant à l'inconduite sexuelle de certains jeunes joueurs de hockey, des allégations de viol, des témoignages de victimes. Et c'est Hockey Canada qui a payé, semble-t-il, pour ces inconduites de jeunes joueurs de hockey. Monsieur Lemire, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Donc, aujourd'hui, il y a des dirigeants de Hockey Canada qui étaient devant les députés. Qu'est-ce que vous retenez des passages, des témoignages de Michael Brind'Amour et de sa successeure par intérim, Andrea Skinner?
Effectivement, les membres du comité du patrimoine ont convoqué le président et la présidente et l'ancien président du conseil d'administration. Notre souhait est toujours de faire la lumière sur les allégations d'agressions sexuelles qui sont survenues en juin 2018. Mais comme vous dites, plus on avance dans ce dossier-là, plus on se rend compte que c'est scandale par-dessus scandale. Et ça, c'est profondément troublant. Il y a une culture du silence, une culture toxique, une culture de pouvoir qui est maintenue au sein de Hockey Canada. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, donc dans leur témoignage, ça ressemblait beaucoup à ce que moi j'ai vécu, en tout cas ce qu'on a vécu au mois de juin, dans les témoignages de la première fois que Scott Smith et Tom Rennie étaient venus. On sent une organisation qui a peu d'intérêt à participer, peu d'intérêt à faire la lumière, peu d'intérêt à faire preuve de transparence, peu d'intérêt à informer les Canadiens et les Québécois sur leurs pratiques. Et qui sont arrivés, comme je dis, là, très mal informés. La différence en juin, il était plutôt, si vous me permettez l'expression, plutôt cocky, là, plutôt agressif, tandis qu'aujourd'hui, ben, il était vraiment dépassé par la situation. Mais, moi, ce qu'ils m'ont donné comme impression... Oui, ben, allez-y.
Non, allez-y.
Ben, ce qu'ils m'ont donné comme impression, c'est que vraiment Hockey Canada, c'est une bulle qui est déconnectée du reste du monde. Pour dire, regarde, fondamentalement, on est en désaccord avec la façon dont on parle d'Hockey Canada dans les médias. C'est une citation d'Andrea Skinner. C'est profondément troublant, là. C'est une bulle, on se convainc en nous autres, on se parle en nous autres, on dit qu'on est bon, on est là pour sauver la situation. Mais l'ensemble de la classe politique, l'ensemble des parents, l'ensemble des joueurs, ils ont décroché, là.
Mais, OK, je veux bien, mais concrètement, là, personne ne peut dire à Hockey Canada de congédier les membres de sa direction, de son conseil d'administration. Vous avez le pouvoir de les amener devant le comité, sauf que Hockey Canada, à la fin de la game, va faire ce qu'Hockey Canada veut faire. Est-ce que je me trompe?
Mais il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, le rôle d'un conseil d'administration, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'ancien président et la présidente, c'est d'être le chien de garde. Là, visiblement, ils sont un bras exécutif de la haute direction, donc ils contribuent à maintenir la culture toxique. Moi, quand est arrivé donc l'article de Rick Westhead qui amenait les faits allégués de juin 2018 à London, ben effectivement, j'ai fait déposer une motion pour convoquer la Chambre. Ils sont venus en juin 2018. Ils ont tellement été mauvais parce que, puis là, ça a été répété aujourd'hui, en banalisant des cas d'agression sexuelle. Il
il y en a juste un ou deux par année. Ça avait choqué énormément de gens. Et à partir de là, la ministre a posé un geste qui était nécessaire, c'est-à-dire de faire un audit puis retirer le financement à Hockey Canada. Plusieurs commanditaires se sont retirés. Il a fallu ça pour qu'Hockey Canada, cet été, publie aux alentours du 15 juillet une lettre d'excuse en disant « on va changer, on a compris le message ». Ils sont venus à la fin du mois de juillet, Scott Smith et son équipe de haute direction, et visiblement, ils n'ont pas compris le message. Ça n'a pas changé cet été. On a encore des cas dans lesquels on fait un sondage et on dit que c'est les médias qui ne comprennent pas bien. Ça ne fonctionne pas cette façon-là. Ce qu'on apprend hier, il y a un fond dans un fond pour camoufler la façon dont proviennent les sources d'argent. Donc, si on cache les sources d'argent, ben forcément, ça va être plus difficile de le sortir dans un audit qui ne donnera pas les résultats escomptés. C'est pour ça que moi, ce que je demande, c'est que j'ai reposé des questions à la ministre en chambre. Donc, en juin dernier, j'ai déposé une motion qui a été adoptée à l'unanimité pour une enquête indépendante. Et ça, c'est important, le mot indépendant, parce que là, Hockey Canada fait ses propres enquêtes. Ils ont redonné un mandat à la firme NN Hutchison d'aller un peu plus loin, de contraindre davantage les joueurs, sous peine qu'ils pourront plus porter le chandail de Hockey Canada. La réalité, c'est qu'ils sont plus d'âge junior. Ça a peu d'impact sur leur carrière. Et le mandat qui a été donné au juge Cromwell. Mais dans tous les cas, en ce moment, Hockey Canada enquête sur lui-même, va recevoir ses conclusions, va juger desquelles qu'il rend public ou pas. Et c'est ça qui fonctionne pas. C'est pour ça que ça prend une enquête indépendante sur la façon dont Hockey Canada traite les plaintes d'inconduite sexuelle qui lui sont rapportées.
Merci, M. Lamire. Lâchez pas le morceau. Je pense que c'est un enjeu important. Bonne journée.
Merci, M. Lagacé.
À la prochaine. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue pour le Bloc québécois.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.